Je vais sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop de bien.
Ça fait
des gros dîners chauds,
allez-y.
J'adore sortir, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous,
bordel. C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, elle est touchée ferme, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette parce qu'on rencontre des gens. Allez-y quoi.
Sortez les gens, veuillez sortir.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme tous les jours accompagnée de Samuel. Bonjour Samuel.
Salut Marie.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Stargott pour la première édition du Korean Tour Festival qui se déroulera du 22 au 23 février au Palais des Congrès. Donc Alexandre qui est en charge de la programmation de ce festival, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour à tous, merci.
Alors qu'est-ce que le Korean Tour Festival et comment s'est construit le projet autour de cette première édition?
Alors le Korean Tour Festival, c'est un festival pop culture autour de la Corée. Comment ça s'est construit? En fait, ça fait 10 ans qu'on organise le Japan Tour Festival, qui est un festival pop culture autour du Japon. L'idée, c'est de mettre en avant la culture de ce pays dans un grand festival, un peu comme Japan Expo à Paris. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Et ce festival va présenter tous les aspects de la pop culture. Donc on parle de cinéma, on parle de jeux vidéo, on parle de séries, mais aussi on parle de culture, d'art traditionnel, etc. Donc ça fait 10 ans que le festival Japan Tour Festival a lieu à Tours. Et cette année, c'est les 10 ans. Et puis on avait envie de parler d'un nouveau pays qui est la Corée, puisque la Corée du Sud, beaucoup de gens en parlent et c'est devenu très tendance. Les jeunes sont fans de Corée. Donc on s'est dit, pourquoi pas profiter de cet anniversaire pour lancer un nouveau festival autour, cette fois-ci, de la Corée, toujours sur le même modèle. On parle de pop culture et de Corée du Sud.
Et alors, quelles sont les animations phares que l'on pourra retrouver sur ce festival?
Alors, elles sont nombreuses. Parce qu'en fait, le festival, il est construit pour faire en sorte que, quand vous venez, il y a tellement de choses à faire qu'une seule journée, ça ne puisse pas suffire. C'est vraiment l'objectif, c'est que les gens ne s'ennuient pas, qu'il y ait vraiment du contenu et beaucoup de choses. Alors, il va y avoir des ateliers pour découvrir la culture traditionnelle. Il va y avoir énormément de rencontres avec des invités, etc. Des spectacles. On a 4 scènes différentes. On va remplir tout le Palais des Congrès avec des animations sur tous les niveaux. Et voilà, je peux citer quelques petites choses, mais il y aura un grand concours de cosplay comme au Japan Tour Festival. Ça, c'est la partie un peu pop culture. Mais plus Corée, il y aura un concours, cette fois-ci, de danse K-pop le dimanche. Donc avec 9 participants qui vont s'affronter, des crews sur scène, en fait. Et puis, il y aura pas mal de concerts, dont notamment un de Starseed, qui est probablement un des seuls, je crois de mémoire, groupes professionnels de K-pop en France. Et puis pas mal d'autres invités. On va aussi recevoir une des actrices de Squid Game. Je vais prononcer son nom, mais c'est Jo Ryung Kim. Peut-être que je me trompe, mais elle ne nous écoute pas, je pense. Et qui jouait dans la première saison le personnage 212 de mémoire. Et puis énormément d'autres invités. On va recevoir Nota Bene, qui est notre star locale, youtubeur histoire, qui va venir nous parler de l'histoire de la Corée. Et puis vraiment plein de choses. On va faire toute la liste, il faut venir découvrir.
Donc alors, comment a été conçue cette programmation? Est-ce que vous avez travaillé avec des associations coréennes?
Oui, tout à fait. En fait, on est en partenariat avec Tour Korean et Salangchae, qui sont deux associations majeures de la culture coréenne à Tours. Et on a travaillé avec elles et leur réseau, leurs connaissances pour faire venir. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'il y a au moins 40 ou 50 Coréens qui viennent exprès pour le festival pour présenter énormément de produits, de l'artisanat, des choses très traditionnelles en fait, de la Corée.
Et du coup, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Est-ce qu'il y a eu des critères particuliers de ces intervenants ou artistes?
En fait, il n'y a pas forcément de critères, mais déjà, c'est des gens qui avaient envie de venir, donc ça c'est important. Puis des gens qui font des produits de qualité, axés sur la tradition et la culture, donc ça c'est très important. Mais on a vraiment un peu tout, parce qu'on a des gens qui vont venir vous présenter une exposition, par exemple, de papier traditionnel coréen, des découpages, etc. Et puis, il y a des gens qui travaillent dans l'éducation, Ça c'est assez étonnant et pointu, mais c'est des gens qui avaient envie de venir présenter ce que c'est que leur forme d'éducation à la coréenne. Donc ça va permettre de confronter un peu à ce que nous on connaît, découvrir des choses. Ils vont vous présenter pas mal de petites choses sur comment leur vision de l'éducation en Corée. Donc il y a vraiment un panel. Notre objectif c'était vraiment d'avoir un panel le plus large possible puisque c'est une première édition et que le but c'était de faire découvrir la Corée à beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou qui pensent que la Corée se limite à la K-pop. Mmh. Même s'il y aura de la K-pop, il y en aura plein, mais il y aura vraiment pas que ça en fait.
Être présent voilà sur tous les volets.
Tout à fait.
Donc à quel public le Korean Festival Tour s'adresse-t-il ?
Alors en fait on essaye comme pour le Japan Tour de s'adresser à un plus large public possible. L'idée, c'est que nous, on veut que les enfants, les plus jeunes qui s'intéressent à la K-pop, à la culture coréenne telle qu'elle soit maintenant, viennent parce qu'ils vont retrouver de la food, des produits de beauté, de la musique K-pop, etc. Tout ce qui fait, je dirais, le sel de la vague coréenne aujourd'hui. Mais on veut aussi que leurs parents viennent avec eux parce que la Corée, c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de culture, beaucoup de cuisine, de choses à découvrir. Et du coup, la programmation s'adresse à un petit peu tout le monde. Mais en vrai, elle s'adresse même à des gens qui ne connaissent pas du tout la Corée. Pourquoi ? Parce qu'on a une programmation qui est très pop culture, comme sur tous les festivals Japon ou autres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura du cosplay, il y aura du gaming, il y aura évidemment toutes ces choses-là, du webtoon, etc. Toutes ces choses-là qui n'ont pas réellement de rapport avec la Corée, même si on avait essayé de les teinter un petit peu version coréenne. Mais aussi, on aura tout ce qu'il faut pour comprendre et découvrir un pays qu'on connaît peu encore aujourd'hui.
Et donc, quels sont vos partenaires pour cet événement ?
Alors là, ils sont très, très nombreux.
C'est vrai.
Et donc, il y en a de toutes formes, en fait, les partenaires. On a des partenaires qui nous aident à tous les niveaux. Les partenaires principaux, c'est évidemment la région centre, la métropole, la ville de Tours et Tours Korean, Salon de Chae. Mais on est aussi en partenariat avec une autre radio, je ne sais pas si on peut en parler.
Qui ?
C'est Énergie. Et puis des associations locales qui nous aident beaucoup, notamment le Spawn, qui est une association assez nouvelle mais très active qui s'occupe du staff de Japan Tour Festival et aujourd'hui maintenant du staff de Korean Tour Festival. On est aussi en partenariat avec des boutiques comme Cultura, LDLC, etc. Et puis des magazines, de la presse spécialisée. On a un partenariat avec une célèbre marque de burgers, etc. Et surtout, un des partenariats qui est fondamental, je dirais, pour ce festival, c'est le Centre culturel coréen, qui est une institution de la Corée en France et qui valide et approuve, entre guillemets, le festival et ses gages de sérieux et de qualité vis-à-vis du contenu sur la Corée, quoi. J'ai dû sûrement en oublier, s'ils nous écoutent.
Vous le disiez dans le média 37e degré, donc vous avez bloqué la vente des passes deux jours et les préventes du samedi, donc le public semble au rendez-vous. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'engouement ?
Alors, oui et non. Bon, pour information, depuis cet article auquel vous faites référence, on a aussi bloqué les préventes du dimanche. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de place. Oui. Ça veut juste dire qu'on n'en vend plus en avance pour permettre à ceux qui ne désirent pas acheter sur Internet ou qui ne peuvent pas de venir quand même. Par contre, on est obligé de prévenir qu'a priori, tout le monde ne rentrera pas. Donc il faut venir tôt, s'armer peut-être de patience parce qu'il y a... Il y a une jauge maximale au festival, donc quand il y a des gens qui vont sortir, il y en a d'autres qui vont rentrer. Enfin, il reste des places de toute façon. Et en fait, bon, l'engouement du Japan Tour Festival aujourd'hui, il est énorme puisqu'on a 27 000 visiteurs pour une ville comme Tours. C'est incroyable et une grande partie ne vient pas du tout de la région d'ailleurs. Et donc là, on s'attendait à ce que ça se passe bien. Avoir fait toutes les préventes aussi longtemps, entre guillemets, avant le festival, non, ça on ne s'y attendait pas. Donc, en vrai, on est hyper content parce que c'est gage du fait que le public est au rendez-vous et nous fait confiance. En même temps, c'est toujours un peu... on préférerait que tout le monde puisse venir. Quoi.
Et c'est ce que vous disiez, c'est un gros événement, donc l'attractivité dépasse aussi la ville de Tours.
Oui, pour ce Korean Tour Festival, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même qu'une première édition, mais on verra bien, parce qu'on a l'habitude de demander un peu aux gens aussi de faire des sondages pour voir d'où ils viennent. Mais c'est vrai que sur le Japan Tour, on a un gros pourcentage qui vient de loin, parce qu'en fait, on a tellement d'invités et tellement de contenu sur le Japan Tour Festival qu'il y a des gens qui se déplacent juste pour ça. On a même, bon, ça reste très anecdotique, mais on a même des gens qui viennent du Japon exprès pour venir voir les invités.
Okay. Du coup, ça répond directement à ma question. Du coup, est-ce que ce festival répond à un intérêt grandissant à la culture coréenne ou même japonaise à Tours, même en France ou...
Alors, est-ce qu'il y répond? Je pense que ça, on pourra vous le dire la semaine prochaine. En tout cas, on a tout fait pour qu'à la fois, il y réponde et à la fois, il soit unique par sa construction. C'est parce que des festivals qui parlent de la Corée, de sa culture, de sa tradition et qui vont vous présenter des artistes coréens, il y en a plein. Il y en a des festivals qui parlent de cinéma, de drama coréen, il y en a des festivals qui sont centrés sur la K-pop et tous les trucs modernes, il y en a. Nous, on a voulu un festival qui regroupe tout ça et même plus, en fait, pour être une grande fête familiale ouverte à tous, dans laquelle on peut s'immerger dans un pays qu'on connaît peu et en découvrir des facettes qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
On va écouter dans quelques instants donc le groupe Starseeds, vous l'avez cité, qui sera présent donc pour des concerts lors de l'événement. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur ce groupe? D'où vient-il et de qui se compose-t-il?
Alors, Starseeds, malheureusement, moi je ne connais pas bien l'histoire de Starseeds, en fait, mais ce qui est important, ils ont des influences qui sont assez variées, en fait, et c'est ça qui est plutôt pas mal, parce que c'est pas que la K-pop, il y a un peu de hip-hop, un peu de R&B, il y a pas mal de choses. Elles étaient quatre, je sais pas si vous avez suivi, il y en a une qui s'est séparée du groupe hier ou avant-hier.
Oh. Ah non, on n'a pas suivi l'actualité.
Donc, le groupe, c'est Kanya, Jun, Léa et Kali. Et malheureusement, Jun a quitté le groupe. Donc, ils ont fait un petit commande. Donc, voilà, elle ne sera pas là au festival, malheureusement. Mais le groupe va continuer à trois, en tout cas pour l'instant. Oui. Et puis, ils ont annoncé une quatrième qui va rejoindre le groupe avant l'été, si j'ai bien compris. Et voilà.
D'accord. Merci à vous pour cette présentation. Donc, on va y revenir juste après une pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, Samuel?
Comme tu l'as dit, on va écouter Starseeds et leur titre Slip and Slide et Tic Tac de Elite. Slip and Slide, hey, hey. Slip and Slide. Yeah. You can make me feel like I'm anybody. Tonight De retour sur Radio Campus Tour, vous venez d'écouter Sip Inside de Sarsis et Tic Tac de Elite. Alors je rappelle que Alexandre, qui est chargé de la programmation du festival Korean Tour Festival, est avec nous. Il y aura du coup un concours de K-pop danse avec des participants qui ont été sélectionnés en amont. Sur quels critères seront-ils jugés et qui sera le jury?
Alors, les critères, alors je ne vais pas vous mentir, en fait, je ne sais pas. c'est Wayanes qui s'occupe de ça, qui est une association locale qui est partenaire aussi avec nous, qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais qui aurait mérité, et qui s'occupe de toute la partie K-pop, en fait, sur le Japan Tour Festival et sur le Korean Tour Festival. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ces participants, en fait, vont avoir deux danses à faire. Une chorégraphie qui est une reprise d'une chorégraphie existante et une qui sera une chorégraphie originale qu'elles doivent créer. Ensuite, les critères sont multiples et c'est plus des choses un peu professionnelles. Donc, je ne me lancerai pas là-dedans. Par contre, dans le jury, il y aura deux membres de crew et deux membres de Starseed.
Qu'est-ce que je pourrais retrouver en tant que gamer?
Alors, on a tout un espace alors gamer dans lequel il y a pas mal de... d'animation, on aura un petit espace de bande d'arcade, des machines en libre accès, des tournois, un tournoi de Pokémon Go et un tournoi de Mario Kart, je crois. C'est du bêtise. Enfin, vous trouverez toutes les informations dans l'application à télécharger, j'en profite. Et il y aura une scène avec des quiz, des animations, il y aura même un concert de Corneline qui chante des musiques de jeux vidéo le dimanche sur cette petite scène. Il y aura pas mal de choses à tester, des animations de Just Dance. Voilà.
Ok, c'est rempli.
Et donc, vous proposez une rencontre avec l'actrice, attention, moi aussi j'ai du mal, Jo Ryong Kim, qui a joué donc dans la série Squid Game qui a explosé sur Netflix. À quoi pourra-t-on s'attendre lors de cette rencontre?
Alors, en fait, il y a deux moments où on peut la rencontrer. Soit, enfin, on peut même faire les deux, d'ailleurs. Il y a un petit talk dans lequel elle sera interviewée, entre guillemets, par Au-delà des News. Et on lui posera des questions sur son parcours, sur ce qu'elle fait, comment elle voit son métier, etc. Et puis, le public pourra aussi lui poser des questions. Et puis, il y a des moments de meet and greet où on pourra la rencontrer, faire une photo et une signature éventuellement. Alors, à savoir que il y aura, bon, on ne sait pas combien il y aura de personnes, mais il n'y a pas non plus énormément de disponibilité sur ce genre d'événement. Donc ça, c'est pareil, si on veut être sûr de pouvoir avoir sa photo, il vaut mieux venir à l'avance. Contrairement à pas mal d'autres festivals, le billet d'entrée suffit, il n'y a rien à acheter, c'est gratuit, mais il faut faudra peut-être attendre un peu.
Quand est-ce que l'engouement pour la culture coréenne, notamment les K-dramas, est arrivé en France ?
Ah, bonne question. ça fait déjà quelques années. Moi, j'ai pas tout suivi, donc je vais pas vous dire de bêtises. Je peux pas donner. Je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Moi, je regarde pas mal de choses, mais je suis pas spécialiste entre guillemets. Je sais que Netflix, évidemment, a fait beaucoup pour les K-dramas. Mais ça fait quand même déjà quelques années qu'il y en a, mais il y en a de plus en plus tous les ans, en fait.
Et alors, cette programmation, elle est hyper complète, on l'a dit. Hein, donc, il y a évidemment de la K-pop, des conférences et projections liées au drama coréen, de la street food, des jeux vidéo, des comics en format webtoon, de la K-beauty, donc c'est la routine de soins pour la peau qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, des rencontres avec des personnalités d'Internet. C'était important d'inclure le plus d'éléments possibles de la pop culture coréenne.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui nous parlait beaucoup. D'abord parce que toute cette culture, en fait, elle passe par Internet. Donc, c'est hyper important pour nous d'inclure des gens, en fait, qui parlent de ça sur les réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup de gens qui sont des fans de Corée et qui sont allés en Corée ou qui vivent en Corée ou qui apprennent le coréen, etc. Et puis, tout ça, pour nous, c'est vraiment... fondamentale dans la conception même d'un festival pop culture, puisqu'aujourd'hui, la pop culture, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par Instagram, elle passe par TikTok aussi, et ça, c'est très fort. Et on est hyper content d'ailleurs, parce que on a une invitée de dernière minute qu'on a annoncée vraiment hier, et on peut en parler là, qui est Romy, en fait, qui est une Instagrammeuse lifestyle, beauté, etc., qui est une fan de Corée, et qui est quelqu'un qui a 1 500 000 abonnés sur Instagram, donc c'est assez phénoménal. Et qui sera présente parce que la programmation qu'on a proposée au festival lui plaît, qu'elle a envie de voir et qu'elle veut savoir ce qui se passe et rencontrer les gens qui l'admirent sur le festival. Donc c'est un petit peu le point d'orgue un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai qu'on est hyper content d'accueillir plein de gens comme ça, ou comme Coffee Time, Sam et les dramas et tous les autres que je ne peux pas citer là tout de suite. Mais,
Donc Romy, elle est arrivée de façon imprévue en fait dans votre programmation ?
Alors, imprévu,
enfin, c'est ça, le terme imprévu, est mal choisi.
Mais... Imprévu, oui et non, parce qu'on avait envie qu'elle soit là, on l'a contactée, mais c'est arrivé très, très tardivement. Et puis voilà, on est quand même super contents.
Est-ce qu'il y a un événement que vous attendez particulièrement de votre part ?
Pendant le festival ? Ouais. En vrai, moi, à titre personnel, ce que j'attends, c'est l'ouverture des portes. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui est émouvant parce que c'est un premier festival et voir les gens s'engouffrer dans les portes, découvrir le festival et puis voir sur leur visage, j'espère, des sentiments positifs. D'ailleurs, on aura un petit test parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais le samedi dimanche, le festival est payant. Enfin, il n'y a plus de place, on en a déjà parlé de ça. Mais par contre, on a décidé d'ouvrir le vendredi soir sur une courte période et en version un petit peu légère, entre guillemets. Il n'y aura pas d'invité, il n'y aura pas d'animation, évidemment. Mais ce sera gratuit de 17h à 20h le vendredi. Ça permettra de faire quelques emplettes rapidement, voir un petit peu, se préparer à ce qu'il y aura le lendemain. Et on espère accueillir à la fois des gens qui sont tellement impatients qui viendront dès le vendredi soir pour s'échauffer entre guillemets pour le week-end et puis d'autres qui viendront juste flâner pour découvrir le festival.
Donc c'est un festival qui surfe sur toutes les tendances de la pop culture. On connaît surtout les concours de cosplay dans les conventions japonaises. Est-ce que la culture coréenne, elle a une vision différente du cosplay ?
Non, c'est quand même assez similaire. En tout cas, ça n'a nous chez nous. Même s'il peut y avoir quelques différences sur la pratique du cosplay en Corée, ça n'aura pas d'incidence sur notre cosplay, nous, à Tours. Il n'y a pas un large écart entre les deux. Le cosplay, c'est assez général, en fait, et partout dans le monde. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du cosplay, et que je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui pourront trouver des différences entre les différentes pratiques. Mais,
on ne vous retrouvera pas sur ce concours ?
Moi ?
Oui.
Si, bien sûr. Toujours, je suis déguisé, mais on ne me voit pas. En fait. Mais oui, non, ce concours-là, il sera quand même assez similaire à celui du Japan Tour Festival. Évidemment, il n'aura pas la même ampleur parce que le Korean Tour Festival, c'est une première édition. Il faut que les gens découvrent, comprennent, etc. Ça prend toujours un petit peu de temps. Mais on on a déjà un engouement qui est largement supérieur à ce qu'était le Japan Tour il y a 10 ans. Donc, voilà.
Et donc, ce qui différencie ce Korean Tour du Japan Tour, c'est vraiment le fait que ce soit la première édition, que tous les événements soient littéralement ouverts au public, à un très grand nombre, et que ce soit vraiment... Comment est-ce que je peux dire ça? Vous le disiez juste avant en plus. Hop. Magnifique, ça sort pas, besoin d'aide.
C'est pas grave. Non mais oui, le Korean Tour Festival, c'est, on l'a voulu différent et à la fois dans, la même, dans le même esprit que le Japan Tour Festival. Donc ce sera différent parce qu'on a tout un étage dédié à la culture coréenne. Et évidemment, ça ne peut pas être la même chose que la culture japonaise. On a tout un espace dédié à la K-pop, alors qu'au Japan Tour Festival, la K-pop a une toute petite place parce que ça n'a pas de rapport avec le Japon. Donc, ce sera vraiment différent. Mais à côté de ça, on aura un espace de jeux de société comme on l'a au Japan Tour Festival. Sauf que là, ils vont présenter une majorité de jeux coréens et il y aura des animations autour des jeux de Squid Game. Il y aura des choses. Voilà, c'est en ça que la touche coréenne va s'inviter dans les sujets qui sont pop culture, en fait.
On en sait déjà plus sur le festival Korean Tour. Sur le festival Korean Tour. Faisons une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour. On écoute Flou de Hive.
Vous venez d'écouter Flou de Hive sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Alexandre du Korean Tour Festival. Donc tous ces éléments pop culture, ils se servent énormément des réseaux sociaux, c'est ce qui leur permet de devenir viral, parce qu'ils fédèrent donc une importante communauté en ligne à l'international. Et donc est-ce que sans les réseaux sociaux et sans une communauté de fervents internautes, ce type d'événement pourrait rencontrer du succès ?
Alors ça c'est une bonne question, on ne peut pas savoir parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui existe sans les réseaux sociaux. Après, la communauté, pour tout ce qui est la culture, la tradition, etc., ça se passe encore, et heureusement beaucoup, dans les associations locales, dans la vie de tous les jours au sein de la ville de Tours, sur le Japon et la Corée. Il y a énormément de choses qui se passent dans les restos, dans les cours de coréens et de japonais, dans les associations, etc. Donc il y a quand même un public qui est là et qui a envie de découvrir ces pays. Après, c'est vrai que nous, la construction du festival tel qu'il est fait, ce que je vous disais tout à l'heure, ça tourne autour de la pop culture, des réseaux. Donc des réseaux, c'est comme ça que les gens se font connaître, etc. Et comme je vous disais, on a beaucoup de gens qui viennent de la Corée, de beaucoup d'artisans, etc. Mais on a aussi beaucoup d'invités qui se font connaître au travers de leur travail sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a un thème qu'on est en train de développer et qu'on est assez content de présenter pour quasiment la première fois, oui, je crois, au Korean Tour Festival, c'est les creepypasta, qui sont des histoires d'horreur que les gens se racontent un petit peu comme les feux de camp au coin du feu, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne fait de feux de camp, ou très peu. Et ça se passe donc plutôt sur Internet. Et donc, on a trois vidéastes qui vont venir raconter des histoires autour de la Corée. Donc, Mademoiselle Mac Creepypasta, les histoires de Skull, et je crois que j'ai mangé le nom de la troisième, elle va m'en vouloir. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Tales of Ivy, ça me revient tout de suite. Et puis aussi, on a des sujets sur l'humour sur Internet. On va recevoir des gens comme Sushi Nihiliste qui commentent un peu de façon humoristique ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme aussi Arthur N et Marc Tournebeuf qui sont des comédiens auteurs qui font beaucoup de comics sur Internet. Enfin, tout ça c'est à retrouver, encore une fois j'insiste un tout petit peu parce que c'est hyper important. Si vous venez au Korean Tour Festival, téléchargez l'application avant, ça permet de préparer son programme, d'avoir tous les horaires, les informations, les plans bientôt, et ça permet de s'y retrouver et de préparer ça au mieux. Voilà. Puis dernier point, puisque j'étais en train de citer les choses qui sont pas totalement en rapport avec la Corée, mais plutôt avec la pop culture. Comme ça plaît beaucoup et puis que les gens ont vraiment envie d'être là, on reçoit quatre comédiens de doublage, dont certains ont fait des dramas, mais pas tous. On va pouvoir retrouver Sébastien Minéo, Sébastien Bolin, et j'en oublie. Mais vous allez retrouver tout ça sur l'application ou le site internet.
Le Korean Tour Festival, ça représente du coup combien de personnes sur le projet ?
Alors le Korean Tour Festival, c'est beaucoup de gens en fait, parce qu'il y a à la fois, le projet est produit par Tour Événements, donc toutes les équipes de Tour Événements, évidemment, ne travaillent pas à l'année là-dessus, mais en ce moment, elles travaillent beaucoup là-dessus, donc c'est beaucoup de gens déjà, dans la logistique, dans la communication, dans tous les services en fait chez Tour Événements. Alors combien il y en a qui travaillent dessus exactement, je ne sais pas. Nous, indépendants, on s'occupe de la programmation. On est une équipe de 4-5 personnes à travailler dessus. Puis après, il y a toutes les associations. Il y a Young Nation Studio qui s'occupe de la K-pop, Salam Chae, Tour Korean, 2K2D pour la partie jeux de société, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui travaillent sur le projet, à des niveaux différents, bien évidemment. Mais c'est un projet qui ne pourrait pas exister sans la coordination un petit peu de tous ces gens.
Et qu'est-ce qui, vous, alors, dans votre parcours, vous a amené à programmer ce festival ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est mon métier, en fait. Non, mais moi, je travaille avec Tour Événements depuis des années et des années. Pour l'anecdote, si vos auditeurs s'intéressent à ce genre d'anecdote, on a commencé par faire du poker avec Tour Événements. On a organisé des tournois de poker dans un autre festival. On a fait pas mal de choses. Et puis, le Japan Tour Festival s'est imposé à nous au travers des associations locales et d'un projet commun avec Tour Événements et ma société. Et petit à petit, puis après 10 ans de succès avec le Japan Tour Festival, on avait envie de monter un nouveau projet pour parler d'une nouvelle culture qui est le Korean Tour Festival. Donc tout naturellement, on a monté ce projet tous ensemble. En fait.
Il y aura Japan Tour cette année ?
Oui, il y aura Japan Tour cette année. Il y aura même les 10 ans du Japan Tour cette année. Donc, bel événement et plein de belles choses.
Quelles sont vos attentes du coup pour Korean Festival Tour?
Eh bien, maintenant qu'on sait que ça va être plein, ce qu'on attend, c'est que les gens soient satisfaits, que tout se passe bien, que les gens repartent conquis. C'est une première édition, donc bien évidemment, on sait que c'est au Palais des Congrès, donc ce n'est pas l'ampleur du Parc des Expos. Donc bien évidemment que ce ne sera pas aussi grand que le Japan Tour Festival, mais que sur cette surface et avec tout ce qu'on a prévu, que les gens repartent satisfaits du contenu, qu'il y ait eu assez de choses pour qu'ils passent une belle journée. Je pense que ça, c'est hyper important. On sera très attentif d'ailleurs à faire en sorte que tout le monde soit content d'être venu, parce que c'est la raison d'être de toute façon du festival et de notre travail. Et puis la condition pour qu'il y ait une deuxième édition, parce que l'idée, c'est d'inscrire le festival dans une continuité comme le Japan Tour Festival.
Et notre dernière petite question, si vous deviez résumer le festival en trois mots.
Ah, trois mots.
Il n'y en a pas assez.
Ah, lesquels? Sans utiliser les thématiques, j'imagine, parce que sinon ce serait pas drôle.
Ça, c'est moi, vous qui vous challengez.
Moi, je dirais, ouais, de toute façon, le problème des thématiques, c'est qu'il y en a tellement que je pourrais pas les rédiger en trois mots. Alors, moi, je dirais famille, plaisir et découverte.
Ce qui est, ma foi, fort sympathique. Merci beaucoup, donc, Alexandre Stargott, d'avoir été avec nous. Ouais. Est-ce que l'on peut retrouver le Korean Tour Festival sur les réseaux sociaux?
Oui, sur Instagram, sur TikTok, il y a un site web aussi, voilà, tout ça. De toute façon, c'est koreantourfestival.com, c'est pas compliqué, puis après vous avez tous les liens, et puis l'appli est disponible sur Android et sur Apple.
Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Donc on reste sur ce grand volet de la pop, mais cette fois-ci pour de la pop américaine, on enchaîne avec un volet chronique d'En Sortez. Et Nathanaël est de retour, donc avec une chronique sur Sabrina Carpenter.
Voici rendez-vous pour en apprendre un peu plus sur une étoile montante de la pop. C'est au tour de Sabrina Carpenter. Actrice et chanteuse, cette dernière bat des records, notamment au Billboard. Une petite taille, 1m51, mais une grande notoriété. Ce 2 février, à Los Angeles, avait lieu la 67e cérémonie des Grammys, où la chanteuse a été notamment récompensée de 2 Grammy Awards, un pour le meilleur album pop vocal et un autre pour la meilleure performance solo. Pour en revenir à ses débuts, elle s'est notamment fait connaître avec la chaîne Disney Channel, où cette dernière jouait dans la série Le Monde de Riley, originellement Girl Meets World, où elle interprétait le rôle de la meilleure amie du personnage principal, Maya. Elle a d'ailleurs collaboré même sur le générique de cette série, Tang on the World. Elle avait aussi fait des petites apparitions dans d'autres séries comme Austin et Ali, où elle interprétait une jeune fille timide qui rêvait de chanter, de monter sur scène et de vaincre sa timidité. Et c'est en quelque sorte sa réalité à elle, puisque Sabrina Carpenter avait toujours rêvé de monter sur scène. Lorsqu'elle avait 6 ans et qu'elle a découvert la série Hannah Montana, une autre série sur Disney Channel, avec la célèbre actrice et chanteuse Miley Cyrus, qui en était l'actrice principale à l'époque, après avoir découvert la série, elle a participé à un concours en rapport avec cette dernière. Et c'est un peu ce qui l'a lancée. Auparavant ce concours, hein, elle avait aussi donc créé sa propre chaîne YouTube, où elle y publiait des reprises de chansons connues. Elle n'avait que 10 ans à l'époque, et aujourd'hui elle en a 25. Comme quoi, rien n'est impossible, il faut s'accrocher et poursuivre ses rêves. À présent, Sabrina progresse dans la musique indépendante. Vous avez certainement entendu son dernier tube Expresso, phare durant cet été 2024. C'est une chanson qui a d'ailleurs été écrite en France, à Chaillant, dans les Pays de la Loire. En effet, la popstar recherchait un lieu un peu plus intime, à l'abri des regards. Et c'est notamment dans son passage dans l'émission Quotidien en juin dernier que cette dernière témoignait de son amour pour la France. a fait plusieurs premières parties lors de la tournée de Eras Tour de Taylor Swift en Amérique du Sud, en Australie et à Singapour, ce qui a notamment du coup participé à augmenter sa cote de popularité. Et il faut néanmoins mentionner que les deux chanteuses sont très amies. On a pu le voir lors de la cérémonie des Grammys lorsque Taylor Swift dansait sur les prestations de Sabrina. À présent, Sabrina réalise sa propre tournée de Short and Sweet Tour. En France, elle va se produire à l'Accor Arena de Paris le 16 et 17 mars 2025. Cette liste se compose notamment de Please, 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 ayant atteint la première place au Billboard, et bien entendu Expresso, ainsi que 19 autres morceaux. Sabrina Carpenter, elle marque notamment ses concerts avec les outfits, autrement dit les tenues qu'elle porte. À la fois sexy, à la fois chic, ses tenues marquent ses fans. Robe courte, jarretière, bas, bottes hautes, et j'en passe. Cette dernière impose son propre style. On pourrait dire qu'elle mélange à la fois le fun, mais aussi le chic. Ce sont des tenues qui restent aussi très colorées, avec auxquelles parfois elle mêle le vintage. En bref, sur scène, on ne l'oublie pas. Elle scintille à la fois par ses choix vestimentaires, mais aussi par son audace. Tout comme beaucoup de célébrités, cette dernière possède aussi de l'influence, et notamment sur les jeunes générations. On aime aussi Sabrina par le féminisme qu'elle arbore. Ses chansons tournent beaucoup autour du pouvoir féminin et de l'amour. Elle représente aussi une image positive et forte de la femme dans ses différentes chansons ou encore lors de ses interviews. Elle prend des positions notamment sur l'égalité des sexes, la dénonciation de standards imposés aux femmes dans l'industrie de la musique et du cinéma. Elle utilise aussi les réseaux sociaux pour défendre ses différentes causes. Elle compte 44 millions d'abonnés sur Instagram où elle propose un contenu à ses frais. Sabrina Carpenter a beau être chanceuse, comme on peut le dire, une belle femme aux yeux bleus, blonds, qui a réussi, il faut tout de même noter les difficultés que les femmes, même encore aujourd'hui, peuvent rencontrer dans l'industrie cinématographique et musicale. Comme dans tous les métiers, elles sont relativement invisibilisées. Elles restent largement minoritaires par rapport aux hommes, même si une évolution peut être constatée en remontant les époques. Être une femme dans l'industrie de la musique reste un défi. Encore plus lorsqu'elles ne correspondent pas aux critères de la société ou quand elles possèdent des différences qui ne plaisent pas. Une femme doit encore prouver sa légitimité. On peut parler d'une certaine pression à devoir performer, notamment sur le plan physique et vestimentaire. Sabrina Carpenter a su s'imposer dans ce milieu avec son propre style et apparaît alors comme authentique.
Et maintenant, place à la chronique No Name sur l'album Invisible de Michael Jackson.
Bienvenue dans No Name, film, jeu vidéo, série. Aujourd'hui, tout en musique, car on va parler de l'album oublié de Michael Jackson, Invisible. On retrouve à la production Michael Jackson, bien évidemment, Rodney Jerkins, Teddy Riley, Dr. Freeze, André Harris et Babyface. L'album sort le 30 octobre 2001 et Invincible, c'est 16 titres. Unbreakable, Heartbreaker, Invincible, Break of Dawn, Heaven Can Wait, You Rock My World, Butterflies, Speechless, 2000 Watts, You Are My Life, Privacy, Don't Walk Away, Cry, The Lost Children, Whatever Happens et Threatened. L'album débute à la première place du classement américain Billboard et dans 13 pays différents. Il est certifié double disque de platine aux États-Unis le 3 décembre 2001. Au total, ses ventes dépassent les 6 millions d'exemplaires dans le monde, soit un résultat totalement décevant par rapport au budget de production. Effectivement, Invisible demeure l'album le plus cher de l'histoire de la musique, avec un coût de production estimé à 30 millions de dollars par Sony, et aux ventes des précédents albums du chanteur. Alors, petite mise en contexte. Michael est en conflit à l'époque avec Sony. En effet, la maison de disques et son patron de l'époque, Tommy Mottola, ont forcé la production de cet album, forçant Michael à livrer un travail presque bâclé et saboter le succès de cet album pour récupérer les catalogues ATV Music de Michael Jackson. Sorti peu après les attentats du 11 septembre, le 30 octobre, l'album n'a pas reçu l'accueil qu'il devait avoir, notamment à cause d'un arrêt brutal de sa promotion, seulement 2 mois après sa sortie. D'ailleurs, il avait rendez-vous ce jour-là dans une des deux tours, mais il n'est pas venu, car il ne s'est pas réveillé. Il y en a, ils ont dû avoir le seum chez Sony. En plus de cette pression écrasante, Michael était à l'époque pleinement engagé dans sa vie de parent et ne pouvait pas remettre à deux mains ses responsabilités. Mais bon, je ne suis pas venu ici pour parler polémique, controverse, mais de musique, et pour le coup, on est bien servi. Décrit par la critique comme pertinent mais trop long, il s'agit littéralement de l'album oublié, qui est pourtant très bon. Il coche toutes les cases des catégories de son temps, fin 90 et début années 2000, en répondant à l'appel en termes de sonorité R&B et pop. Par exemple, You Rock My World, juste ce titre devait vous mettre la puce à l'oreille. Mais surtout les sons, et je vous assure que c'est vraiment des bangers, c'est sensationnel, que sont Heaven Can Wait, Butterflies ou encore Break of Dawn, un titre travaillé avec Dr. Freeze. Il nous livre dans cet album des titres plus intimistes avec Privacy et Cry et humanistes avec The Lost Children. Cet album sur lequel il a effectivement moins travaillé, il n'y a pas mis tout son cœur. Mais Invisible devrait être pour moi un des classiques du R&B, au moins de cette époque. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui venaient tout juste de découvrir cet album ou le redécouvrir. Enfin, j'espère qu'il l'a redécouvert. Et je vais vous lire un de ses avis que je trouve totalement pertinent. L'ultime album studio du roi de la pop. À concentrer de son histoire musicale avec des morceaux plus percutants et d'autres plus en douceur. Une voix qui se distingue et varie sur chaque morceau, l'album n'a pas pris une seule ride en 20 ans, visionnaire. C'est ça la marque du plus grand artiste de tous les temps. Michael a su transcender les époques, ne laissant qu'admiration et respect même dans ses échecs. Conseille vivement d'aller écouter cet album, il me brûle. D'ailleurs, l'enchaînement qu'il y a, Break of Dawn, Even Can Wait, You Rock My World, Butterflies is Speechless, c'est vraiment pépite. Pépite. Sur ce, on se dit à la prochaine sur Radio Campus Tour. C'était Nomé.
Non, quel banger, ça c'est incroyable ça. Voilà.
C'était la chronique No Name sur l'album Invisible de Michael Jackson, la salle d'agenda culturel. Et oui, aujourd'hui on est mardi 18 février. Marie, qu'est-ce que tu as à nous proposer?
Eh bien, le jeudi 20 février, dans la salle Louis Renard à la Ville aux Dames, conférence L'histoire au féminin par Anne de Balmorche. En 1974, la commune de la Ville aux Dames a choisi de donner à ses rues uniquement des noms de femmes. Et parmi la centaine de noms existants actuellement, seules certaines femmes seront évoquées. Certaines liées à l'histoire de la Touraine ou de la France, certaines méritant d'être mieux connues pour le rôle qu'elles ont joué dans l'émancipation des femmes et pour leur désir de tenir une place équivalente à celle des hommes dans la société. Le tarif est de 5 euros, mais c'est gratuit pour les mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap. C'est de 18 à 20 heures.
Si vous êtes d'humeur festive et musicale, après cette conférence, vous souhaitez laisser place à la musique, retrouvez la jam session du collectif 7880 au Bateau Ivre. Une grande soirée impro-collective que le collectif organise depuis 2018. C'est à partir de 19h. Des instruments seront mis à disposition et nous on vous propose d'en discuter dans l'émission de demain, le mercredi 19, puisque nous les accueillons, le collectif 7880. L'entrée est à un prix libre.
Donc toujours le jeudi 20 février, concert de Citron Citron, un duo composé d'un frère et d'une sœur qui viennent tout droit de la scène pop alternative genevoise. Leur nom de groupe vient de leur chat qui s'appelle Citron. Ils se font connaître avec leur premier album Chagrin Bleu en 2022. Et en 2024, ils sont de retour et sortent Mare Éternelle, leur deuxième album. Et c'est au Super 9 à partir de 20h. Donc la soirée accueillera également sur un thème citronné le groupe de post-noise Tourangeau Citrus Riot, mais aussi Ave Noir et DJ Agrume. Une soirée à thème, on a dit. Ouais. L'entrée est à un prix libre là aussi.
Le vendredi 21 février, à la parenthèse, à Ballon Miro, Miré, Mitsanagra, une œuvre chorégraphique par Gwen Rakotovao.
On fait un effort quand même.
Gwen Rakotovao, merci. Une seule sur scène qui représente son solo de danse en sortie de résidence, c'est à 15h. Le samedi 22 février, retrouvez le Korean Tour Festival sur 2 jours, jusqu'au dimanche soir. L'événement présenté par notre invité du jour, culture, tradition, K-pop, drama, gastronomie, cosmétique, mode, webtoon, cinéma.
La liste est longue.
Ouais, la liste est longue, l'événement sera très complet. Et l'émission d'aujourd'hui sera retrouvée en réécoute sur le site radiocampustour.com.
Donc on reste sur le samedi 22 février, la médiathèque de Joué-les-Tours propose l'atelier créatif Portrait, le visage identifié, dans lequel vous êtes invité à vous représenter en utilisant toutes les techniques que vous souhaitez, sans l'aide d'aucun miroir, dans le but de réaliser un autoportrait introspectif. En revanche, il faut ramener son propre matériel, c'est sur réservation au 02 47 73 32 00 de 14h à 17h30. Et enfin, soirée au Temps Machine avec Daniil qui sera en concert, avec Aaron en première partie à 19h30. L'artiste franco-algérien est autodidacte et commence très tôt les productions, pour lui comme pour les autres. Il puise dans les sonorités raï pour réaliser ses sons, le tout dans un registre rap, c'est au tarif réduit de 22€.
Et le lundi 24 février, si vous souhaitez en apprendre plus, le Conservatoire des Inégalités, ou si vous vous posez tout simplement la question « Pourquoi un Conservatoire des Inégalités ?», une soirée débat est organisée à la faculté de Lyon de 18 à 20h en présence de Louis Morin, cofondateur et président de l'Observatoire des Inégalités, afin de revenir sur les engagements de cette organisation, fondée déjà il y a plus de 20 ans à Tours, autour d'une question cruciale, où sont les inégalités en France aujourd'hui ? L'agenda...
Vas-y. Mais faisons-le ensemble, non pas. Donc l'agenda culturel, c'est fini pour cette semaine. On se laisse sur une touche de musique avec Tiamo de Daniil.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai une robe interna, faible, jamais. Je me sens chez moi, Tizia, chef, wesh. La misère me challenge. Pour ma mère en Olympia, pour ma soeur en sac Chanel, ouais. J'aimerais dormir mes vers chez moi, ça tire.
Pas le temps de douter, faire taire les jaloux enculés.
J'peux pas te faire confiance, ton love est factice.
Elle veut jouer, allez un diamant. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants. J'veux pas t'écouter, laisse parler le piano. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants.
Elle veut jouer, allez un diamant. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants. J'peux pas t'écouter, laisse parler le piano. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants.
Algérien, danger, j'ai cramé plus de sang. Alhamdoulilah, maintenant, j'ai plus le temps de me venger. Yeah, yeah. Beaucoup de choses qu'on changeait, c'est ton histoire enchantée. Avec Daniil sur le chantier, elle fait pas chauffer. Non, elle a jamais fait le boucan. Elle a pas le nez plein de coca. Elle a instruite, elle a plein de bouquins. J'aimerais m'apaiser, mais d'où je viens, y'a plein de coups bas. J'ai claqué ses fesses, ça sonnait comme une belle bouca.
Elle veut jouer, allez un diamant. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants.
J'veux pas t'écouter, laisse parler le piano. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants.
Elle veut jouer, allez un diamant. J'suis là pour les diamants, pas pour les diamants. J'peux pas t'écouter, laisse parler le piano. Je suis là pour les diamants, pas pour les diamants. Elle veut jouer, allez un diamant. Je suis là pour les diamants, pas pour les diamants. Je peux pas t'écouter, laisse parler le piano. Je suis là pour les diamants, pas pour les diamants. Je suis là pour les diamants.
Envie de voyager ?
Ouais, carrément.
Écoute Radio Campus Tour 99.5 FM.